VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, découverte d'un important lot d'armes de guerre et de munitions à Tombouctou dans le Nord-Ouest. Et ce, grâce au concours des populations qui avaient informé la gendarmerie de la ville d'un mouvement suspect au niveau d'un bâtiment inhabité. Après une semaine d'enquête, les autorités ont trouvé un véritable arsenal de guerre. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
À Badjindé, plein centre-ville, poumon de l'économie de Tombouctou, la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur ce dépôt composé d'armes légères, de grenades offensives et défensives, des PA, des lance-roquettes, des obus de mortier de 60 à 80 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions de guerre. L'auteur de ce forfait, selon les enquêteurs, est en fuite. Quant à l'opération, elle suit son cours normal. Rappelons que la même unité de la gendarmerie basée à Tombouctou, sous le commandement du chef d'escadron Siaka Diakité, un certain Oumar Ibrahim Aïdra, ex-militant de Mujao, a été arrêté à Tombouctou. Ce dernier a reconnu avoir collaboré avec le Mujao en 2012. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les travailleurs du secteur des médias publics sont en colère et ils ont exprimé leur ras-le-bol mercredi par un mouvement de grève inédit dans le pays. À l'appel du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, des centaines de journalistes ont arrêté le travail. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
En raison de ce mouvement, notre programme habituel connaît des perturbations. Nous nous en excusons. Le programme normal reprendra demain, jeudi 8 septembre 2016, à 5h du matin. D'avance, merci.
Voici le message servi en boucle aux éditeurs de la radio publique et quand pour la télévision, c'est un message déroulant qui annonçait la perturbation des programmes. Durant 24 heures, les bureaux de la radiodiffusion télévision du Burkina, ceux de Sidoya, le quotidien d'État, se sont vidés de leurs occupants venus à la Bourse du Travail à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinématique, dénoncer l'inaction du gouvernement sur leurs revendications minimales.
Pourquoi nous sommes là ce matin, camarades ? Oui, ça ne va pas, camarade.
Le secrétaire général du Sinatic, Séléki Dramé.
Nous tenons à féliciter toutes les travailleuses, tous les travailleurs des médias publics qui ont accepté de se sacrifier pour mener ces actions-là. Envie d'interpeller encore une fois les autorités gouvernementales pour qu'elles résolvent ces problèmes cruciaux, à savoir les conditions de rémunération salariale et indemnitaire qui sont en deçà de ce qui peut permettre à un homme de médias d'être à l'abri du besoin. La reconstruction de carrière, les frais de production et autres avantages dont bénéficiaient les travailleurs des médias publics et qui ont été suspendus. Et enfin, l'arrêt des intimidations et autres pressions sont souvent monnaie courante dans les médias publics.
Ce mouvement de journalistes a connu une participation inédite de plusieurs centaines d'agents des médias publics venus crier leur ras-le-bol.
C'est pour dire non à l'immixtion dans les médias d'État. Non à la non-examination de notre plateforme.
La plateforme elle-même a été élaborée en 2010 et nous sommes aujourd'hui en 2016. Donc nous pensons que nos préoccupations n'ont que trop duré. Nous sommes prêts à aller jusqu'où il faut.
Les journalistes, unis comme rarement ils l'ont été, ont brandi à l'unisson des cartons rouges à l'endroit du ministre Rémi Dandjinou en charge de la communication. Un ministre mis en garde à demi-mot à travers la déclaration du président de l'unité d'action syndicale, Bassonnement Bazier, venu en renfort.
Si au contraire le point qui nous est fait, qu'un travailleur était menacé, que sa vie est menacée, ou même sa quiétude psychologique est menacée, nous allons réagir.
Le Sinatic se bat depuis quelques mois pour faire appliquer un décret gouvernemental pris en 2015 sous la transition en faveur de journalistes de médias publics qui travaillent dans des conditions précaires. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Gabon, poursuite du bras de fer entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et l'opposant Jean Ping, qui conteste la réélection du chef de l'État à l'élection présidentielle. Des détails avec Nani Talani.
Jean Ping n'a toujours pas déposé de recours contre la réélection du président sortant à quelques heures de la clôture du délai légal de contestation devant la Cour constitutionnelle. Par contre, hier, à la veille de la date butoir de ce jeudi 16h heure locale, 15h temps universel, le président Ali Bongo a déjà confirmé qu'il allait lui-même saisir la Cour sur certains résultats obtenus par M. Ping. Le camp Ping continue de réclamer un recomptage des voix avant tout recours devant la Cour constitutionnelle. Une délégation de chefs d'État de l'Union africaine est attendue à Libreville pour tenter de désamorcer la crise et éviter que le Gabon, jusqu'à présent un des rares pays stables d'une région troublée, ne sombre à son tour dans le chaos. Dans l'attente du dénouement de la crise, la vie tourne au ralenti dans le pays, même si quelques titres de la presse, d'opposition comme proches du pouvoir, ont reparu ce jeudi après plus d'une semaine de paralysie.
Crise sud-soudanaise, il serait mal avisé pour Riek Machar de retourner à son poste, précédent poste de vice-président, estime Donald Booth, l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Pour sa part, la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, affirme avoir aidé à transporter en lieu sûr des partisans de Machar ayant franchi la frontière commune. Les précisions de Lionel Gaïma.
Compte tenu de l'instabilité persistante au Soudan du Sud, Washington croit qu'un retour de Riek Machar au poste de vice-président serait une bonne idée, a fait savoir l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Ce n'est pas pour autant une raison pour le président sud-soudanais Salva Kiir de monopoliser le pouvoir et de museler toute dissidence politique, a souligné Donald Booth mercredi lors d'une audition à la Chambre des représentants. Face à la situation prévalente au Soudan du Sud depuis 2011, plusieurs législateurs américains sont appelés à des sanctions contre les responsables de la violence dans ce pays. La mission de l'ONU en RDC dit de son côté avoir pris en charge pour des raisons purement humanitaires, plus d'une centaine de partisans de Riek Machar ayant franchi la frontière. Selon le porte-parole onusien Stéphane Dujarric, que cite l'AFP, certains étaient dans un état critique et ont été acheminés vers des centres médicaux congolais pour recevoir des soins. Ces combattants et leurs chefs avaient été chassés de Juba, la capitale sud-soudanaise, à la suite de violents affrontements avec les forces loyales du président Salva Kiir.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, traverse une période de turbulence qui pose la question de l'avenir politique du président sud-africain Jacob Zuma et au-delà, celui du parti au pouvoir. Ces derniers mois ont été marqués par des manifestations anti-Zuma et des tensions au sein du gouvernement, le tout ponctué par une défaite électorale. Avec 54% des voix au niveau national, le mouvement de l'icône anti-apartheid Nelson Mandela reste de loin la principale force politique d'Afrique du Sud. Mais la perte symbolique de villes comme Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth lors des municipales d'août a mis en lumière sa fragilité. Depuis ce revers, les voix discordantes n'hésitent plus à se faire entendre, faisant ressurgir le spectre de la crise de 2008 qui avait contraint à la démission le président et chef de l'ANC, Thabo Mbeki. Sommet du G20 à Hangzhou en Chine, quel projet pour l'Afrique à cette réunion qui s'est terminée en début de semaine? Les pays les plus industrialisés vont-ils réussir dans les sillons tracés par la Chine en Afrique? Les analyses sont sceptiques, évoquant l'absence d'un plan clair, Eddie Sango.
Au sommet de Hangzhou, en Chine, le G20 a approuvé un programme de développement durable pour l'Afrique, mais sa mise en œuvre reste une autre histoire, estime Barry Sotman, politologue à l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong. Sotman estime que bien que l'Afrique soit riche en ressources naturelles et présente de nombreuses opportunités, les intérêts et les niveaux de compétition divergents empêchent les membres du G20 d'œuvrer ensemble pour faire éclore les potentiels de croissance du continent. Les modèles d'affaires à faible marge bénéficiaire en Afrique n'est pas pour toutes les entreprises non plus, ajoutent les politologues. Par exemple, les fabricants chinois des produits de qualité moyenne peuvent se contenter d'une marge de profit mince de 5 à 10%. Or, les entreprises de nombreux pays occidentaux réalisent souvent jusqu'à 30% de la marge bénéficiaire, affirme Sotman. Les analystes souhaitent par exemple que les G20 mettent fin à la subvention des efforts d'exploitation des nouvelles réserves de charbon, de pétrole et de gaz décidées en 2009 à Pittsburgh. Pour eux, le G20 est à l'heure de vérité face à l'Afrique, comme l'a dit l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo.
Et pour terminer, le conflit en Libye, les forces pro-gouvernementales libyennes sont en passe de chasser définitivement les combattants de l'État islamique de leur dernier repère dans la ville de Sirte. C'est ce qu'a déclaré mercredi le secrétaire américain à la défense Ashton Carter. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.